Le début d'une semaine très importante pour la Calédonie, c'est demain que reprendront les discussions sur l'avenir institutionnel autour de Manuel Valls. Aujourd'hui, le ministre des Outre-mer a passé une partie de la journée à Marais. La toute nouvelle structure de BMX à Tine a incendié la nuit dernière. Ce sont les Algeco qui abritent le bureau et les vestiaires qui ont été ravagés par les flammes. À la fin de deux jours de fête autour du cerf et de la crevette, plus de 10 000 personnes se sont retrouvées pour cette fête à Boulou-Paris. Une interview fleuve de François Bayrou dans le journal du dimanche. Il détaille sa stratégie pour faire adopter le budget 2026. La solution, selon lui, une consultation des Français par référendum. Séjour d'élection en Roumanie avec le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection scrutée de près en Europe. Explication dans le journal. Et puis le sport et la Formule 1. Max Verstappen sur Red Bull en pole position du Grand Prix des États-Unis à Miami. Demain matin, au départ de la course, il aura à ses côtés sur la première ligne Lando Norris sur McLaren. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. C'est donc à Marais que le ministre des Outre-mer a passé ce dimanche. Il s'est recueilli sur la tombe de Yewene Yewene, assassiné le 4 mai 1989, en même temps que Jean-Marie Tjibaou, avant de se rendre, après avoir rencontré les élus des îles, sur le site de la fête de l'avocat. Un déplacement que le ministre a effectué, accompagné par le haut-commissaire Jacques Billon, mais aussi de nombreux élus. De retour à Nouméa cet après-midi, Manuel Valls s'est rendu enfin d'après-midi au CCT pour un hommage cette fois-ci à Jean-Marie Tjibaou. Demain, après une visite au Médipôle de Koutio, dès 7h30, le ministre des Outre-mer retrouvera les délégations politiques pour poursuivre les discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Elles se dérouleront, c'est officiel, depuis quelques minutes seulement, en mode conclave. Elles devraient durer 3 jours. Des discussions qui débuteront demain à 14h au Sheraton de Deva, à Bouraï. Le ministre des Outre-mer sera notamment à accompagné pour ces discussions du conseiller outre-mer du Premier ministre Éric Thiers. C'est donc une semaine très importante pour la Calédonie qui débute. Voyons avec vous, Charlotte Coulson, quels seront les autres temps forts de cette semaine. Semaine qui s'annonce courte pour certains d'entre nous. Après le 1er mai, certains feront le pont du 8 mai.
En effet, jeudi prochain, le 8 mai, nous commémorons le 80e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie et donc la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 1945. Plusieurs cérémonies de commémoration auront lieu dans les communes de Calédonie. Les premières commencent ce mercredi à 10h à Païta et puis à 16h à Dimbéa. À Nouméa, l'anniversaire de la Seconde Guerre mondiale sera commémoré ce jeudi 8 mai. Mercredi, au chapitre institutionnel, les membres du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, se retrouveront à la mairie de Nouméa pour une séance plénière. À l'ordre du jour, l'examen sur saisine du président du gouvernement d'un projet d'avis concernant une délibération relative aux manifestations sportives. Pour le reste, Koumak organisera à partir de jeudi la fête de l'écotourisme et de la génisse à la broche, une fête dans le Grand Nord qui se terminera dimanche. Et enfin, c'est aussi dimanche prochain qu'aura lieu Place des Cocotiers, le vide-grenier du centre-ville de Nouméa. 250 stands vous attendront pour faire de bonnes affaires entre 7h et 12h30.
Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu demain matin, c'est Yves Dupas, le procureur de la République, qui sera notre invité du matin. Rendez-vous à 7h30 sur Radio Rythme Bleu. Autre rendez-vous sur notre antenne, c'est Samuel Népéoun, membre du gouvernement en charge de nombreux secteurs, qui était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il a été interrogé sur les nombreux chantiers qu'il a lancés et présentés ces dernières semaines. Le magazine Transparence, qui sera rediffusé dans son intégralité, ce sera juste après ce journal. Vous pouvez également le retrouver, je vous le rappelle, en audio et vidéo sur notre site internet rrb.nc. Au chapitre des faits divers, la toute nouvelle structure BMX à Tine a incendié la nuit dernière. Ce sont en fait les Algeco qui abritent le bureau, mais aussi les vestiaires qui ont été détériorés. Le feu a entièrement détruit le bureau et s'est propagé aux vestiaires qui ont été partiellement touchés. Cette piste de BMX a été construite dans le cadre d'un projet porté par l'État et la province Sud, qui y ont injecté quelques 150 millions de francs. Gilles Brial, deuxième vice-président de la province Sud, en charge de la jeunesse et des sports.
La désolation, d'abord, pour une piste qu'on a inaugurée il y a à peine 15 jours, il y a des Algeco, des conteneurs aménagés pour avoir des vestiaires, un bureau pour pouvoir travailler, une salle de formation pour expliquer aux jeunes comment aborder la piste. Et ça a été incendié dans la nuit. Donc voilà, c'est on continue à des petites bandes de barbares à s'attaquer aux équipements qui sont faits pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse s'occuper. Donc encore des équipements publics à peine inaugurées qui sont incendiées. Donc c'est la désolation et on voit que malheureusement la connerie humaine ne s'arrête pas. Donc la province évidemment a porté plainte, mais c'est vrai que c'est une zone située près du squat de Tina. On nous avait déjà brûlé lors de l'insurrection l'année dernière l'ensemble des équipements, l'accès aux boucles de Tina où il y avait des vestiaires, des salles de formation, et on nous avait volé tous nos vélos qui étaient destinés aux jeunes, parce que toutes les écoles de tous les quartiers viennent apprendre à faire du vélo sur ces pistes-là. Donc déjà c'était une première, je dirais, attaque contre les équipements pour les jeunes, et là c'est la deuxième aujourd'hui.
Et j'ajoute que les auteurs présumés de cet incendie ont été très rapidement interpellés cette nuit par la police nationale. Il s'agit de deux jeunes de 16 et 17 ans qui sont en garde à vue. Rappelons que la structure BMX avait été inaugurée le 19 avril dernier. Autre incendie atteint cette fois-ci, la maison du gardien de l'école Gustave Lo, une maison abandonnée depuis que l'école a brûlé lors des émeutes de l'an dernier. Les pompiers sont tout de même intervenus à 20h hier soir. Ils ont éteint les flammes qui ont ravagé le salon de la demeure inhabitée. À Boulot-Paris, la 27e édition de la fête du cerf et de la crevette a refermé ses portes durant ces deux derniers jours d'animation. Les Calédoniens ont pu profiter des produits proposés par plus de 130 exposants présents à l'hippodrome de Boulot-Paris. Le bilan avec Dany Nourtier, elle est coordinatrice de la fête du cerf et de la crevette.
C'est un bilan positif, c'est vrai que oui, bien entendu, on s'attendait à avoir un peu plus de monde, mais bon... On est bien au courant que la situation actuelle est compliquée et on manque de crevettes, parce qu'on a été dévalisés en très très peu de temps. Et puis je pense que le temps était beau sur Boulot-Paris, mais semble-t-il pas sur les autres endroits. Donc les gens ont peut-être eu peur de sortir.
Une estimation au niveau des visiteurs ?
Oui, on a fait 10 000 visiteurs. En majeure partie, les exposants sont très contents parce que les visiteurs ont été plutôt consommateurs. Donc c'est déjà une bonne chose. Les stands culinaires sont plus que ravis. Beaucoup ont fermé de bonne heure parce qu'ils se sont fait dévaliser en fait. Les visiteurs, ceux que l'on a pu voir, étaient plutôt joyeux de notre programmation artistique sur la scène, des animations que l'on a pu donner. La petite ferme, les animaux, les animations pour enfants et tout. Donc dans l'ensemble, vraiment une belle cohésion et de la bonne humeur et une bonne satisfaction de la part de tout le monde.
Et la fête du cerf et de la crevette qui a donc refermé ses portes tout à l'heure à 16h. À Marais, c'est la 32e édition de la fête de l'avocat qui aura animé tout au long de ce week-end la tribu de Netché. Depuis jeudi, les habitants de l'île ont proposé des activités découvertes, des spectacles de chant et de danse. Et bien sûr, ils ont proposé des dégustations d'avocats à toutes les sauces. Le bilan de cette 32e édition avec Manané Apassa, membre du comité organisateur de la fête de l'avocat.
Il y a tout, les avocats, jusqu'à la poissonnerie, il y a les fruits de mer, il y a langoustes, crabes des cocotiers, picots, tout ce qui est crustacés, langoustes, poulpes, à déguster les bons plats du côté de la mer. On peut dire que c'est toujours les sorties de visite, dans le nord, dans le sud. Il y a les voyages en canoë, en mer, avec les jeunes, sur la plage, la cité. Positif, pour moi, c'est au niveau de la restauration. Quand je vois les gens alignés, tu as une vingtaine de restaurations. Sur les 20, quand tu es à 8h du soir, tous les gens alignés, ça veut dire que, ah là là, je disais hier que, voilà, le moins, il gagne, c'est 200 000. Le plus, c'est 1 900 800.
Cette 32e édition de la fête de l'avocat à la tribu de Netché à Marais a reçu, vous l'aurez compris, le ministre des Outre-mer. Et puis à Nouméa, certains parents ont profité de ce week-end pour faire une sortie familiale au parc zoologique et forestier. Moment enchanté pour les enfants qui, en plus d'une balade, ont pu écouter plusieurs histoires contées au cœur même de la forêt. Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir été charmés par les contes de Sylvain Lornier qui a animé la première partie de la matinée.
C'est sans doute l'endroit dans lequel je préfère raconter plutôt que dans une salle fermée, qu'en même temps les personnes peuvent bénéficier d'un magnifique cadre et puis en plus ils ont des spectacles, donc oui, on est vraiment dans du familial, du populaire, et c'est hyper important en ce moment de développer ça. Alors aujourd'hui j'étais plutôt sur des histoires qui aient un sens un peu, qui peuvent chatouiller les difficultés qu'ont les enfants dans leur vie de tous les jours, donc j'avais une histoire sur la différence, un petit peu sur le harcèlement, une histoire sur la solitude, quand un gosse peut se sentir trop seul, le conte tant qu'on n'assène pas des morales, c'est un super outil pour soigner, guérir, apaiser.
Ça finit par faire... moment, ça explose, la mienne est tombée, elle s'est jamais relevée.
Alors elle a 2 ans et la grande qui a 7 ans. Bah, ça a l'air de bien lui plaire, elle était bien concentrée, elle écoutait tout, elle a applaudi à la fin.
C'était un test pour voir si, parce qu'il a 2 ans, donc je savais pas trop s'il allait rester concentré tout le long de l'histoire et il a été happé par l'histoire.
Bah, c'est vraiment très agréable hein, de pouvoir s'installer et d'écouter dans un cadre aussi joli que le parc forestier.
Les enfants peuvent découvrir les animaux et c'est une belle sortie, on allie les deux en fait, hein, le conte et les animaux.
Et notez que les Dimanches Enchantés est un rendez-vous mensuel qui revient tous les premiers dimanches du mois. C'est au parc zoologique et forestier. Il est 17h56, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'actualité en métropole et dans le monde.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La Sud Info Weekend, Lionel Sabot.
Et l'actualité en métropole avec cette interview fleuve de François Bayrou dans le journal du dimanche. Le Premier ministre rappelle avoir échappé à 6 motions de censure depuis le début de l'année avant de se livrer sur de nombreux thèmes, l'islamophobie, les déserts médicaux ou encore l'euthanasie. Je suis du côté du soin et de la défense de la vie, explique le chef du gouvernement. Dans cet entretien, François Bayrou détaille aussi et surtout sa stratégie pour faire adopter le budget 2026. La solution se trouve peut-être, selon lui, dans une grande consultation des Français par référendum. Maïlène Trémollet pour Europe 1.
5 mois après son arrivée à Matignon, François Bayrou se prépare à l'épreuve du feu, celle du budget 2026. Si pour lui la solution n'est pas dans de nouveaux impôts, le Premier ministre assume un plan d'ensemble qui, je cite, « demandera des efforts à tout le monde ». Alors le chef du gouvernement propose de consulter les Français sur le sujet dans l'objectif de réussir là où son prédécesseur Michel Barnier a échoué. Concrètement, François Bayrou n'exclut donc pas de recourir au référendum, tout en rappelant bien qu'il s'agit d'une prérogative du président de la République. Son objectif, soumettre à l'ensemble des citoyens un plan de retour à l'équilibre séparé en 2 volets. D'une part, la production, dont il souhaite refaire une fierté nationale, et de l'autre, les finances publiques, avec pour horizon un retour sous le seuil des 3% de déficit public d'ici 4 ans. Par ailleurs, le chef du gouvernement ne manque pas de faire le bilan de ces quelques mois à Matignon sur plusieurs sujets, comme la loi sur le narcotrafic ou encore la loi d'orientation agricole, et veut se montrer au travail sur des chantiers d'envergure, comme celui de la proportionnelle, par exemple, qu'il défend avec ardeur, rappelant que la France reste aujourd'hui le seul pays de l'Union européenne à ne pas l'appliquer.
Maïlène Trémollet du service politique d'Europe 1. Actualité judiciaire et dans l'affaire des attaques coordonnées contre les prisons et des agents pénitentiaires. Depuis la mi-mai, 21 personnes ont été mises en examen et incarcérées ce week-end. Les personnes mises en cause dans ces affaires, qui n'en sont qu'une, sont âgées de 15 à 37 ans. Cette nuit pour nous, la procureure de la République de Paris, Laure Becchio, s'est exprimée devant la presse. Elle a fait le point sur le dossier.
Sont désormais mises en examen 21 personnes suspectées d'avoir participé aux faits, mises en examen sous des qualifications en lien avec les éléments recueillis à leur encontre. Pour certains, les qualifications retenues leur rendent leur auteur passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres peines d'emprisonnement encourues délictuelles étant de 10 années. Cette procédure révèle là encore l'évolution de la criminalité organisée qui associe les profils de haut et de bas du spectre. On retrouve également le fait de recourir à des recrutements tarifés à des prix bas de jeunes acteurs, ce depuis la détention. Ces recrutements par les réseaux sociaux ne dissuadant pas ceux recrutés des actions les plus graves.
Alors Becchio, la procureure de la République de Paris. Dans l'actualité de ce dimanche soir également, cet enlèvement qui fait beaucoup réagir, c'est la deuxième fois en l'espace de quelques mois qu'une personne liée au milieu des crypto-monnaies est la cible de criminels. Cette fois-ci, c'est un homme de 60 ans qui a été enlevé. Enlèvement parce que le fils de cet homme a fait fortune justement dans le domaine de la crypto-monnaie. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Selon les policiers, l'homme dont le fils a fait fortune dans la crypto-monnaie avait été enlevé jeudi par 4 individus encagoulés dans le 14e arrondissement de Paris. Ses ravisseurs l'avaient ensuite emmené à bord d'un fourgon de livraison et exigeaient une rançon auprès de sa famille pour le libérer. Grâce à une importante mobilisation policière, la victime a pu être retrouvée en vie hier soir aux alentours de 21h dans un logement en Essonne. 4 personnes ont été placées en garde à vue, notamment pour enlèvement et extorsion avec armes, selon les enquêteurs. La victime blessée a, elle, été prise en charge par les secours. Son épouse, entendue par les policiers, avait précisé que son mari et son fils avaient fait l'objet de menaces par le passé. Une enquête a été ouverte par la justice. La brigade de la répression du banditisme et la police judiciaire sont désormais chargées des investigations.
Antoine Bienvaux du service police-justice d'Europe 1. J'ajoute que le sexagénaire a été retrouvé avec un doigt sectionné.
Mais 18h.
L'actualité à l'étranger, c'est un jour d'élection en Roumanie avec le premier tour de l'élection présidentielle. Une élection scrutée de très près en Europe et pour cause, un premier tour organisé en fin d'année dernière avait dû être annulé après des soupçons d'ingérence russe. Moscou avait été suspecté d'avoir mené une série de cyberattaques pour truquer les résultats de l'élection. La Russie est également soupçonnée d'être à l'origine d'une vaste campagne d'ingérence sur le réseau social TikTok. Conséquence de tout cela, la campagne électorale qui vient de se terminer en Roumanie s'est faite avec un contrôle renforcé des publications politiques sur les réseaux sociaux. Fabrice Eppelboin est spécialiste en cybersécurité et en usage politique des réseaux sociaux.
La Roumanie, c'est clairement une cible de choix pour la Russie d'un point de vue tactique et militaire. Si la Roumanie basculait dans une position de neutralité vis-à-vis du conflit ukrainien, ça serait une immense victoire pour la Russie. On parle d'attaques informatiques sur typiquement les technologies qui servent à comptabiliser les votes pour le scrutin. Puis on parle de campagnes de désinformation. C'est des personnes avec des faux comptes qui vont typiquement faire des commentaires élogieux sous le candidat qui a été désigné par le Kremlin. C'est une multitude de choses qui s'apparentent à du marketing électoral, si ce n'est que c'est du marketing électoral fait par un pays étranger.
Fabrice Eppelboin, spécialiste en cybersécurité. Et puis dans la région Pacifique, en Australie, le Parti travailliste a remporté les élections législatives. Les Australiens étaient appelés aux urnes hier. C'est Anthony Albanese qui a été élu, ou plutôt réélu, car l'homme politique occupait déjà ce poste depuis 2022. Défaite donc de la coalition libérale nationale menée par Peter Dutton. Charlotte Coulson.
Selon les dernières estimations de la commission électorale, la droite n'aurait remporté que 37 sièges contre 83 pour la gauche, qui reste donc largement majoritaire dans un parlement fédéral composé de 150 députés. Les travaillistes ont même accru leur majorité. Peter Dutton lui-même a perdu dans sa propre circonscription. Nous n'avons pas fait assez bien lors de cette campagne et j'en assume l'entière responsabilité, a-t-il déclaré. Il a d'ores et déjà annoncé quitter la vie politique. Le parti libéral qu'il dirigeait va donc devoir se trouver un nouveau leader. De son côté, Anthony Albanese n'a pas perdu de temps pour célébrer sa victoire. C'est avec un sens profond de responsabilité que j'accepte encore une fois de diriger le pays, a-t-il déclaré au siège du Parti travailliste de Sydney. Le chef du gouvernement australien, âgé de 62 ans, a déjà reçu les félicitations de Keir Starmer, Premier ministre britannique, et de Marco Rubio, secrétaire d'État américain.
Il est 18h03, une dernière pause dans ce journal, dans un instant l'actualité sportive et la météo.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal et c'est du sport, Lionel Sabot.
Oui, et commençons avec la Formule 1 et la 6e manche du championnat du monde. Pilotes et écuries sont ce week-end aux États-Unis. C'est le Grand Prix de Miami en Floride.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et il s'est passé beaucoup de choses ce matin en Floride, et notamment la qualification pour la course principale de ce Grand Prix qui sera à suivre demain matin pour nous. Et pour le troisième Grand Prix de suite, c'est Max Verstappen qui a fait s'affoler les chronos. Le champion du monde en titre a signé une nouvelle pole position. Demain, au moment du départ, il aura à ses côtés sur la première ligne Lando Norris. Sur la deuxième ligne, on trouvera le très surprenant Kimi Antonelli sur Mercedes et l'Australien Oscar Piastri. Côté français, Esteban Ocon sur sa Haas a signé le 9e temps ce matin, 11e temps pour Isaac Hadjar sur sa Racing Bull. Grosse déception pour Pierre Gasly, à qui n'a signé que le 18e temps au volant de son Alpine. Déception et début d'inquiétude également du côté de la Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton n'a signé que le 12e temps. Charles Leclerc s'est péniblement, lui, hissé à la 8e place de cette qualif.
Surtout que dans les trois dernières courses, on était sur une... Enfin, il y avait de la progression, donc c'était assez encourageant. Mais là, c'est vrai que c'est un peu un retour à la réalité qui fait mal, parce que 5 dixièmes sur une piste aussi courte qu'ici, ça fait mal, mais ça prouve bien qu'on a des faiblesses et qu'elles sont mises en évidence sur un circuit comme ici. Donc voilà, il va falloir qu'on bosse, parce que là, on est même carrément derrière les deux Williams. Et c'est pas une erreur ou quoi que ce soit, c'est à la régulière. Hein. Vraiment, j'ai eu de la chance de passer en Q3. J'étais à la limite de pas y réussir, donc c'est compliqué.
Et la course principale du Grand Prix des États-Unis à Miami, ce sera à suivre demain matin pour nous. Le départ de la course sera donné à 7h. Et puis ce matin toujours, à Miami encore, s'est disputée la course sprint de ce Grand Prix. Course qui s'est déroulée avec une météo un peu compliquée. Piste détrempée en début de course, puis humide. Les pilotes ont eu bien du mal à tenir leur monoplace loin des rails de sécurité. Au final, ce sont les McLaren qui s'en sont le mieux sortis, puisque c'est Lando Norris qui s'est imposé devant son coéquipier Oscar Piastri et devant la Ferrari de Lewis Hamilton.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Allez, du football avec la suite demain matin de la 32e journée du championnat de France de Ligue 1. 5 matchs seront au programme. Nous suivrons Nantes-Angers, Lyon-Lens, Brest-Montpellier, Auxerre-Le-Havre et Lille-Marseille. Rappelons que ce matin, le champion de France en titre, le Paris Saint-Germain, a concédé sa deuxième défaite de la saison, la deuxième de suite. Les Parisiens sont inclinés 2-1 sur la pelouse de Strasbourg. Les Strasbourgeois qui font une bonne affaire puisqu'ils restent en course pour une qualification pour les compétitions européennes. La saison prochaine. Ce matin, les Strasbourgeois pointent provisoirement à la 4e place du championnat, à un point seulement de l'OM qui jouera donc demain matin. Dans les autres matchs de la matinée, Toulouse s'est imposé 2-1 sur Rennes. Enfin, Saint-Étienne recevait Monaco à Geoffroy Guichard. Les Monégasques se sont imposés 3-1. Du rugby également, avec demain matin pour nous deux chocs 100% français en demi-finale des Coupes d'Europe. Pour la Champions Cup, c'est la plus prestigieuse des Coupes d'Europe en Ovalie. Il ne faudra pas manquer la rencontre entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain. L'Union Bordeaux-Bègles qui, face à un monument de la scène européenne, aura un petit avantage, celui de jouer à domicile. Enfin presque. Christopher Filoc pour Europe 1.
Jouer à domicile, une demi-finale de Coupe d'Europe est un avantage certain. Mais ce ne sera pas à Chaban Delmas, stade habituel du club que les Bordelais recevront Toulouse, mais au Matmut Atlantique. Un changement de stade, loin d'être anodin pour Yannick Bru, l'entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles.
C'est pas chez nous, c'est certain. Notre maison, c'est Chaban. C'est là qu'on a nos repères, avec quelques moments clés. Le tunnel, la communion avec le public.
Un public au rendez-vous dans un stade à guichet fermé. Seul bémol pour les joueurs de Yannick Bru. Les supporters toulousains sont également attendus en nombre. Mathieu Jalibert, demi d'ouverture bordelais.
Pour nous, c'est comme si c'était un stade neutre et encore plus ce week-end, il y aura autant de public de Bordeaux que de Toulouse. Donc voilà, je ne pense pas que ça soit un très très grand avantage de jouer au Matmut pour nous.
Bordeaux qui pourra s'appuyer sur des grands rendez-vous réussis dans cette enceinte. Une victoire en demi-finale du top 14 face au Stade français l'an dernier. Un succès contre Toulouse en championnat fin mars. Il faudra un exploit majuscule pour sortir cette équipe de Toulouse, brillante dans les grands matchs, battue seulement à 2 reprises en 2025.
Christopher Filoc du service des sports d'Europe 1, le vainqueur de cette rencontre entre Bordeaux et Toulouse affrontera Northampton en finale. Northampton qui s'est imposé ce matin à 37-34 sur Leicester. Et puis concernant le challenge européen à suivre en demi-finale, le match qui verra une confrontation entre Lyon et le Racing 92. Le vainqueur de cette rencontre affrontera Bath en finale. Le sport en Calédonie avec hier le tout premier rallye de la saison. C'était sur les pistes de Tomovalley à Bouloupari. À l'issue des 9 spéciales disputées, 6 spéciales en journée et 3 super spéciales en nocturne, c'est Kevin Bertoni au volant de sa Mitsubishi Evo 8 qui s'est imposé. Il a devancé Hendrik Mahoy sur Subaru et Jérôme Martinatti sur sa Ford Fiesta RS5. Un classement qui en a surpris plus d'un. Écoutez, Romain Leandro, il est le président de l'association de sport automobile.
Il y a eu quelques abondants. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage parce que c'était pas mal de leaders du rallye qui ont eu des petits soucis. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est la course, ça arrive. On a eu Eugène Crenier qui a eu un petit souci mécanique. On a eu Alexis Barbou, pareil, qui a eu une petite sortie, qui a eu des soucis mécaniques aussi, qui aurait dû être, je pense, dans les avant-postes. Eric Friandet aussi, bon, qui a fait une sortie de route. Mais ça n'a pas empêché de pouvoir avoir du beau spectacle et un très beau rallye.
Et le prochain rallye se déroulera le 26 juillet, ce sera à Bouraille. On termine avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Cette nuit, le ciel sera bien couvert. Quelques averses remonteront sur l'île des Pins en début de nuit, puis en cours de nuit, des pluies faibles et intermittentes gagneront également le sud, les Loyautés et le sud de la côte est. Le temps restera sec sur les autres régions. Le vent sera d'est, sud-est à sud-est, autour de 20 nœuds. La côte ouest sera légèrement abritée, avec localement 10 à 15 nœuds sur le nord-ouest. La nuit sera douce, avec 20 à 24 degrés, localement 17 à 19 degrés, ce sera sur l'ouest. Demain matin, la côte ouest bénéficiera d'un temps généralement sec malgré la présence d'un ciel souvent nuageux. Ailleurs, le ciel sera couvert et laissera échapper quelques gouttes ici ou là. Le vent de sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds en général, sauf sur l'ouest où il sera plus faible, souvent compris entre 10 et 15 nœuds. Des rafales proches de 30 nœuds sont attendues sur le nord-est.
Merci Nicolas, c'est la fin de ce journal à 18h et pratiquement 12 minutes. Merci de nous avoir suivi, on se retrouve à 19h pour un dernier point sur l'information.